je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, puis sommes dossiers wieder wie jede Woche mit meiner Sendung «Mach mir a Platz» Welle 102.9 Sender Judaïka. Mais quelle chance, chères grandes oreilles, de surfer sur les ondes de votre radio préférée, Radio J, juste sous la synagogue. Mais vous allez me dire, ah bon? De la chance? Yavarom, pourquoi de la chance? Plutôt une bénédiction. Eh bien, je vais vous le dire, votre radio, c'est une pléthore d'émissions, des rubriques, des chroniques et zéro publicité, il faut le souligner, c'est important. Et toute la journée, de la musique émotionnelle, celle qui vous fait vibrer, sourire et surtout qui vous fait du bien dans le dedans de soi. Mais Muller, raconte-nous un peu qui est ton invité surprise. Ben, ouvrez les écoutilles, je vais vous le dire, vous allez le deviner. Vas-y, extrait Thomas.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Vous avez deviné, chères grandes oreilles, mon invité, c'est Monsieur Café. Il a 100 ans, mais toujours bien éveillé et réveillé. Bonjour, comment vas-tu, Patrick Hübscher?
Bonjour, André.
Ça me fait plaisir de t'accueillir chez nous, à Radio Judaïka. Alors, tu es le directeur commercial de chez Café Sati depuis la nuit des temps, mais tu es aussi de formation ingénieur, hein, c'est ça?
Exactement, quoi. Mais voilà, on est commercial depuis...
Depuis la nuit des temps, je l'ai dit, hein. Pas depuis 1926.
Je n'ose pas te le dire.
Alors, c'est l'anniversaire de cette grande maison Sati, elle a 100 ans. Alors, vous avez, j'imagine, un gros gâteau avec 100 bougies. Bah, il faut du souffle hein, pour les souffler.
Bah ouais, mais il n'y a que 365 jours. Donc voilà, on a plein de gâteaux et on va les commencer très très vite à partir donc, de la semaine prochaine. Les premières surprises vont arriver.
Partager avec votre grande clientèle alsacienne ouais, et au-delà des frontières alsaciennes.
Et même au-delà des frontières ouais. Alsaciennes.
Bah, on en parlera ouais. Un peu plus tard. Alors, c'est une des plus anciennes maisons de torréfaction d'Alsace, de la famille Schulé, je crois, hein, c'est ça?
Exactement.
Famille Schulé. Et alors, dans la famille Schulé, je demande la maman. Comment s'appelle-t-elle, la maman?
Alors, je dirais Georgette.
Georgette, elle est de native des années 26, alors?
Exactement, hein, tout à fait.
D'accord. Alors, il y a le fils.
S'appelle Pierre.
Pierre, c'était l'ancien patron.
Hein, exactement, c'était d'accord. Mon premier patron.
C'était ton... Et maintenant, il y a là. Le petit-fils qui s'appelle Nicolas, je crois.
Voilà, et le petit-fils qui a quand même passé la barre des 50 ans.
Des 50 ans, bah ouais, c'est une grande maison. Et alors, c'est ton boss aujourd'hui.
Et
toute cette famille, elle a la passion du café.
Alors, ouais, on pourra dire torréfacteur de mère en fils, de fils en fils. Et puis, oui, tout à fait. C'est vraiment une des raretés hein, sur le marché français, même s'il y a quelques anciennes brûleries hein, qui sont devenues des torréfactions.
Vous êtes l'une des plus anciennes brûleries.
On est sans doute l'une des plus anciennes et on est certainement une des plus anciennes qui ont encore le même statut familial depuis le début.
Et alors, pourquoi les Alsaciens ou votre clientèle sont tellement fous de café? Pourquoi le café, c'est quoi? Ça réveille le matin, on a besoin d'un bol de café pour se réveiller, pour se mettre d'aplomb.
Alors, il faut savoir, hein, en Alsace, on boit un petit peu plus de café que sur le restant de la France, hein, à part la région du Nord, qui sont aussi gros consommateurs de café.
Du côté de Lille, là-haut,
ouais,
les ch'tis.
Alors, ils sont encore un peu à la chicorée, hein, mais c'est pas grave.
C'est pas la même chose, non.
Mais voilà, toujours les idées reçues, hein, en fait. Hein. Plus on descend dans le Sud, moins on boit de café. Hein, et puis, il faut savoir que les Italiens boivent moins de café que nous, hein, même si on a l'impression qu'ils sont
en train de café. Ah, c'est vrai. Eux, c'est des cafés extrêmement ouais. Serrés, alors, comme ouais, ça.
Et dans ouais, la notion ouais. De ristretto, hein, on utilise moins de café que ouais. sur les cafés alsaciens.
D'accord. Donc, cette maison date des années 1926, donc vous fêtez leurs 100 ans aujourd'hui.
Ah oui, alors c'est un grand bonheur. Hein. On le prépare depuis des années déjà, hein, de dire voilà, en 2026, ça sera la grande année Sati. Et puis, on aura des surprises, notamment un très beau café du centenaire qui va arriver.
C'est ce que vous avez, un nouveau package en fait. Uskold, Goldish.
Non, it comes Uskold.
Mais c'est, il ne faut pas tout dire. Il faut garder des petits secrets.
On ne dit pas plus.
Alors, monsieur Patrick, avant de goûter ce breuvage qui parle à l'âme, hein, Patrick, nous allons rembobiner ta vie avec ma boîte à meux. Écoute, tu vois, c'est une vache qui meugle. Ah, c'est mignon, hein. Alors ça, c'est mon jingle, hein. Alors, Patrick, monsieur Hübscher, parle-moi, tu es alsacien de quel coin? Tu viens d'où? On dit Hübsentlitz, monsieur Hübscher?
Ouais. Alors, Hübscher, hein, c'est pas le plus beau, hein. Mais
c'est pas bien non plus. Hein. Mais voilà, écoute.
Je viens de Tetla, hein.
Tetlenheim,
effectivement. C'est un petit village juste à côté de Strasbourg.
C'est un joli mot, Tetla, comme ça, quand on est petit, hein.
C'est une belle terre agricole, donc issu aussi d'un milieu agricole. Donc,
tu viens d'un milieu d'agricole, tes parents sont des terriens, ils travaillent la terre.
Oui, exactement.
C'est noble de travailler la terre.
Oui, je trouve. Et puis,
de donner à manger à l'autre.
Ouais. Toute la connaissance un peu du monde coopératif que je revis, hein, à travers le café avec les coopératives sur l'origine, que ce soit au Pérou, en Honduras, au Guatemala, dans tous ces pays.
Oui, mais à Dudelenheim, on plante pas de café.
On a essayé un petit peu, mais là, avec le gel, c'est pas bon. Non.
Ah oui, j'imagine. Bon, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on cultive dans la famille Hübscher chez Adetle? C'est quoi? Ils font quoi? Du tabac, du chou? Parce qu'à l'époque, on faisait du chou, je crois, du chou à choucroute.
On est à l'intersection de deux routes. La route du tabac, ancienne route du tabac, hein, puisqu'elle est en train de disparaître, hein, sur l'Alsace, mais on reste encore un petit peu sur la route des choux. Hein, on n'est pas tout à fait encore à Grauter-Gersheim, mais
qui est la capitale du choux.
Aujourd'hui. Une des capitales, ouais.
Mais avant, c'était Dudelenheim.
Alors, historiquement, on n'était pas trop mal, hein, parce qu'on avait une énorme choucrouterie à Dudelenheim, et donc tous les agriculteurs avaient forcément du chou à choucroute. Hein,
exactement. Et alors, toi, Patrick, quand tu étais jeune, si tu aidais dans le bureau, tu conduisais le tracteur, ou qu'est-ce que tu faisais avec tes parents quand tu rentrais de l'école?
Comme on avait de la polyculture, hein, il y avait un élevage pour des vaches à lait. Et donc, du coup, par exemple, il y avait la période des foins qui était géniale, parce que là, on était du matin au soir un peu sur le tracteur. De temps en temps, on séchait un peu des cours, pas trop quand même, hein, mais voilà, quand il fallait.
Quand il y avait trop de travail.
Quand il y avait belle météo, hein, il fallait couper, hein, il fallait rentrer le foin.
Alors, à l'instant, tu parles de ça, vache, du meu, là. Est-ce que tu sais traire une vache?
Oui, je sais traire une vache, mais plutôt avec les machines. Hein, donc, puisque même quand même à l'époque, on était déjà automatisé. Donc voilà, mais il faut quand même savoir accrocher au pied.
Alors tu me disais aussi de temps en temps avec ta famille, en pleine nuit, tu devais te lever parce que les vaches elles vêlaient.
Ah ben ouais, alors ça c'était
avec les petits veaux. C'était toujours comment, ça
un grand moment d'émotion, hein, qui était jamais très facile, hein, parce que je dirais le veau se présentait pas forcément de la bonne dans le bon angle, et donc voilà, il fallait y aller à plusieurs personnes parfois, hein.
c'était
un combat, hein. Et je dirais c'est des images comme ça qui me restent gravées sans doute encore longtemps, à jamais dans la tête, ouais, exactement, ouais.
Et alors parle-moi un petit peu de ton enfance. Est-ce que tu étais un enfant sage, turbulent? Comment tu étais quand tu étais jeune dans la cour, dans le bureau?
Je suis toujours quelqu'un de sage, hein. Et puis quand on était élevé à l'agricole, entre guillemets, on était forcément plutôt studieux, hein. Donc ça, c'était quelque chose qui était facile. J'étais plutôt un matheux, hein, ce qui m'avait fait orienter.
Tu parles de ton école. À l'école, tu étais plutôt un bosseur ou un rêveur?
Malheureusement pour les rêveurs, j'étais plutôt bosseur, hein. C'est un petit peu...
Il faut rêver aussi de temps en temps.
C'est moins glamour, mais bon, c'était la réalité.
Alors tu me parles des maths. Est-ce qu'on peut aimer les maths quand on est petit garçon?
Ouais, je pense. Ouais, c'est bien, quoi. Hein. Chez nous, on vendait des œufs à la maison, et alors il fallait 12 œufs, 15 œufs, 20 œufs, 24. Enfin, généralement, c'était par 6.
Donc,
quand
tu
même,
as appris à compter.
Donc,
comme
les tables, quand tu es devant le client et quand tu n'avais pas encore de calculatrice, il fallait être un peu plus vif.
Faire du calcul mental, ouais, c'est bien. Et après, ça t'a suivi toute ta carrière, parce que tu as fait des études, on en parlera tout à l'heure, d'ingénieur. Donc, c'est aussi tout ça, c'est la base des maths aussi pour.
Bah oui, si t'as cet automatisme-là, après, écoute, tu peux aller déjà aller sur d'autres points sans te focaliser sur la base. Quoi.
Bah, tu peux même aller sur la Lune, travailler
la NASA. Mais là, on est de nouveau plus côté rêveur. Là.
Bah, écoute, on va se reposer un tout petit peu les oreilles. On va écouter une musique que tu aimes beaucoup, Coldplay, tu m'as demandé. On va écouter ça. Mais nous voir ça, petit Thomas.
Please.
Alors, tu aimes bien cette musique, Coldplay? C'est quelque chose qui te fait rêver quand même?
Bah, écoute, je crois que chacun a un peu des musiques qui, à un moment donné, parce que tu avais fait un événement à ce moment donné, ouais. Cette musique passée, que tu te la gardes aussi. Ouais. Parce que là, c'est pas tout récent non plus.
Oui, c'est pas tout récent.
C'est pas tout récent.
Mais tu aimes bien plutôt la musique douce, pas trop les Stones ou plutôt les Beatles? C'était quoi?
Ouais,
plutôt
je suis plutôt sur le pop soft.
Écoute, à ce stade de notre entretien, maintenant, je vais te poser quelques questions. Tu répondras en un seul mot. Tu es OK, El Gringo?
Allez, t'entends.
Tu me diras tout à l'heure ce que c'est El Gringo. Ouais. Hein, d'accord. Alors, quel est ton animal préféré, Patrick?
Alors, ça sera un chien et ça sera un berger australien, parce qu'en fait, j'ai un berger australien. C'est notre premier chien qu'on a. On a toujours voulu un chien et que c'est fantastique d'avoir
un
chien.
C'est un gardien de mouton ou de vache?
Ouais, c'est vraiment, ouais. Tu l'as dit, de bons mots. Hein, c'est un gardien quand tu te promènes, quand il y a deux personnes. Ouais. Une est devant, l'autre est derrière. Bah, le chien, il est malheureux.
C'est génial. Donc, alors, quelle est ta couleur préférée, Patrick?
Écoute, je crois que c'est le vert. Hein, c'est la nature. Ouais, c'est le Saint-Patrick aussi, tout simplement.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et quel est ton mot préféré?
Oh, punaise. Alors là, mot le préféré, je pense que c'est l'amitié. Voilà.
Ah, c'est beau, ça. Mmh, ah oui, ouais. C'est important d'avoir des amis dans la vie.
Ah, ouais,
on en a peu, mais il faut compter sur ses amis.
Ouais. J'y travaille depuis très longtemps.
C'est bien d'être. Ouais, derrière ton sourire, je vois que tu es quelqu'un qui aime les amis. Ouais. Et tu es plutôt ville ou campagne?
Alors, écoute, je serais plutôt campagne, hein, historiquement.
Ah, parce que tu habites toujours...
Vu mes origines, et puis comme j'habite toujours dans un corps de ferme, c'est...
Ouais. Ah, ouais. Et quel est ton héros préféré?
Oh, punaise, mon héros préféré. Allez, je dirais Ulysse.
Ulysse,
ah ouais, voilà.
Qui a fait un long voyage avec Pénélope.
Parce que le côté voyage, le côté de toute l'histoire d'Homère, en fait.
Oui,
ces aventures un peu dingues.
C'est vrai.
Tiens, bon, tu vois, mon chien, il s'appelle Circé, par exemple.
Ah,
Circé,
c'est la sorcière. Ah oui, ça vient de là. Voilà. Oui, bien sûr. Et alors, quel est ton plat préféré, Patrick?
Oh punaise, alors on va peut-être enlever la choucroute quand même. Hein.
Tu as assez vécu à côté de la choucroute.
Voilà, mais est-ce que tu sais ce que c'est des Maltnepfle?
Des Maltnepfle, mais bien sûr, je sais ce que c'est. J'ai fait pendant 10 ans une émission culinaire, bien sûr que je sais ce que c'est que des Maltnepfle.
Et ma maman fait des Maltnepfle.
Ah, c'est beau.
Ouais. C'est vachement bon, les Maltnepfle.
Tu sais comment j'appelais ça quand j'étais petit garçon avec ma maman? On appelait ça des voligueux, des nuages.
Oui,
parce que ça avait la forme de nuages.
Ouais, exactement.
Quand ça montait dans l'eau bouillante, comme
exactement,
ça, c'était des nuages.
C'est très beau.
Et donc, c'est aussi un peu ma Madeleine de Proust, tu vois. Ouais. Mais alors, dis-moi Patrick, à quelle époque aurais-tu aimé vivre?
Ah, ça c'est une bonne
question. De Christophe Colomb, de je sais pas, moi de...
Non, les années 2000, je trouve.
Les années 2000.
Voilà, tout simplement. Ouais, je trouve qu'il y avait tellement de choses à faire, on a fait tellement de choses.
C'est vrai,
je trouvais ça relativement génial.
C'est une explosion de choses.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Et si tu étais une fleur, tu serais laquelle?
Si j'étais une fleur, est-ce que je serais un tournesol, par exemple?
Ah, pas mal,
voilà.
Il tourne avec le soleil.
Ouais, exactement.
Ah, c'est pas
mal. Je trouve que c'est joli.
C'est une belle fleur. Ouais,
Coquelicot, peut-être aussi.
Ouais, exactement. Et un arbre, tu serais lequel? Quel arbre?
Celle-là, elle est un peu facile. Je serais un bouleau, parce que je suis un peu staccionaliste.
Ah, c'est joli, c'est bien. Ouais. Et alors, pour finir, quel est ton parfum de ton enfance que tu n'oublieras jamais, jamais, jamais?
Alors, est-ce que tu sais ce que c'est le regain?
Ah, le regain, oui, bien sûr, quand ça repousse une deuxième fois.
Voilà, exactement. Donc, tu as l'odeur du foin et l'odeur du regain est un peu différente parce que tu as une odeur un peu plus terreuse dedans, parfois un petit peu plus forte. Et voilà, c'est un peu spécifique, mais c'est bien resté, c'est un peu...
Et à Dudelheim, on sent ce regain, on sent ce parfum de...
Alors, on le sent maintenant un petit peu... Moi, souvent, parce que en fait, les foins sont faits différemment, mais voilà, c'est quand tu m'as demandé une odeur de...
Oui, mais c'est bien,
donc,
c'est chouette.
C'est,
toi,
plutôt,
ce regard,
c'est plutôt ça que ça c'est, me reste.
C'est intéressant, c'est vrai. Mmh. Alors, quand tu étais petit garçon, tu savais déjà ce que tu voulais faire dans ta vie? Est-ce que tu rêvais d'être un pompier, un policier, un véloman, un tennisman? Ou tout simplement dirigeur de vent sur Mars?
Ben non, écoute, voilà, ça aussi c'est quelque chose. Je ne savais pas quand j'étais petit, donc voilà, pas de rêve de pompier.
T'avais pas envie d'être pompier comme tous les petits enfants.
Non, voilà, non. Mais encadrer des équipes, ça m'a jamais déplu.
Ça t'a toujours plu, ça. Mais et dirigeur de vent sur Mars, ça peut être pas mal, non? Et tu sais pourquoi j'ai dit ça?
Ouais, dis-moi.
Parce que mon instinct me disait toujours ça, André, si tu continues de rêver, tu seras dirigeur de vent sur Mars.
C'est beau.
Et ça c'est une phrase qui m'est gardée, que j'ai gardée. C'est comme une médaille qu'il m'a offert, tu vois. C'est quelque chose que j'ai gardé. Alors, on va écouter un petit peu une petite musiquette pour se reposer un peu les oreilles, hein, comme ça, pour rester un peu cool. On va nous mettre un peu du Souchon, tu vas voir. Quelque chose que tu aimes aussi.
Oh là là là. vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car fou sentimental. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles.
C'est beau du Souchon. Hein.
Ah oui. Ouais.
T'aimes bien, hein. C'est vrai que c'est beau. C'est des belles poésies, hein, de la belle musique. Ouais, hein. Ouais, et alors, Patrick, toi, de ce que dit Souchon à l'instant, le bonheur, est-ce que le bonheur, c'est d'avoir, d'engranger, de... Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, mais d'avoir quoi? C'est ça la question.
Hein, bah, je sais pas, c'est ce qu'il dit, lui, dans sa chanson. Ouais, c'est d'avoir plein de fringues dans ses armoires, ouais. D'avoir... de se laver à l'eau de Javel, enfin voilà, c'est une belle poésie. Qu'est-ce que t'en penses?
Je crois que le bonheur, hein, c'est d'avoir des gens sur qui tu peux compter quand tu es un petit peu dans la merdouille.
Et ça, c'est intéressant, alors, ouais.
Heureusement, ça ne m'est pas trop arrivé d'être dans la merdouille.
Ouais, mais tu peux compter sur des gens autour de toi.
Je pense qu'on... Il y a une histoire qui dit toujours, ah, les vrais amis, tu peux les compter sur les doigts de la main.
C'est vrai,
je suis... Et moi, je pense que je suis assez fier parce que mes deux mains me suffisent.
Il faut savoir aussi... Ah oui, ça, c'est bien. Il faut savoir entretenir tout ça aussi. Est-ce qu'on peut avoir des amis aussi dans son travail, dans le quotidien, là où tu travailles depuis des années?
Oui, je pense, tu sais, à travers l'expérience que j'ai pu faire en Pologne, sur notre site, j'ai des collègues depuis plus de 30 ans, et puis ce sont des gens pros, mais ce sont aussi des amis pros.
Ouais. On en parlait un peu tout à l'heure, parce que tu es un peu à l'origine de tout ça. Parlons-moi un tout petit peu de tes brillantes études d'ingénieur que tu as fait à l'ENSAIS à Strasbourg. Tu es devenu ingénieur.
Moi, je sais pas si elles sont brillantes, c'est toi qui le dis. Hein.
Bah, je pense que si, à mon avis, c'est brillant, parce que si tu étais un matheux, c'était bien l'ENSAIS, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Alors,
ça s'appelle l'INSA maintenant, c'est toujours Boulevard de la Victoire, ils sont alliés avec d'autres écoles, donc pour faire un réseau, ce qui est intéressant. Et puis, oui, je pense. Alors, dans ces études-là, tu as toujours des choses qui sont peut-être un peu théoriques que tu ne feras plus jamais, mais ça te permet de te forger dans certaines choses.
Et ce qui t'a forgé, en fait, c'est un oncle, un jour, t'as ouvert la porte du café et tu allais travailler chez Satie et c'est là que tout a commencé.
Ouais, parce qu'à l'époque, il fallait encore faire son service militaire. Tu avais des variantes, tu pouvais le faire en VIE. Donc, maintenant, ça s'appelait VSNE. Et puis, parti sur 2 ans à temps complet, dans une immersion, dans un autre monde, dans les années 90. Début des années 90, pas de téléphone portable, pas d'Internet. Une petite température de -25, -30 dans l'hiver. Donc, c'était...
Et en fait, il y a une date très importante, le 9 novembre 89, quand le mur est tombé, vous avez la famille Chulé et toi, vous avez une bonne idée d'aller construire Satie en Pologne. Comment est venue cette idée?
Si tu veux, comme on est on reste encore le plus grand régional de France au niveau de la marque, mais le nom est bien régional et qu'on veut rester un grand régional au niveau de la marque Satie, après le Rhin, de l'autre côté, certes on travaille pas mal avec le réseau allemand, mais la marque est très très difficile à travailler en Allemagne, il y a très peu de marques en Allemagne, c'est comme ça. Cette opportunité de chute du mur nous a ouvert à des opportunités commerciales, et du coup on a trouvé des partenaires, on s'est développé, et puis
tu allais vivre en Pologne pour monter une structure, une usine.
Petite usine il y a 35 ans qui a grandi année après année avec des collaborateurs, avec toute une aventure derrière.
Parce que les Polonais, ce sont aussi des Kaffeetonde, c'est quelqu'un qui aime le café.
Alors c'est des nouveaux Kaffeetonde, déjà à l'époque ils n'avaient pas trop les moyens, donc comme un mot qu'on connaissait aussi en Alsace qui s'appelait le Ersatz, parce que il n'y avait pas de moyens d'acheter du café, donc eux jusqu'en 89, les devises étaient un peu complexe, donc le café était complexe. Et donc, comme ce sont des nouveaux consommateurs, ce qui est assez drôle dans ce pays-là, ce sont des consommateurs beaucoup plus ouverts ou différents que nous. On est assez traditionnels en France sur un café expresso, mais par exemple en Pologne, ça les dérange pas de boire un café à différents goûts, caramel, chocolat, vanille.
Ce qui n'existe pas chez nous. Ça.
Très peu, en fait. On est très puriste, ce qui est plutôt aussi une bonne chose.
Et en Pologne, vous êtes nombreux dans cette usine, vous êtes plus nombreux qu'à Strasbourg?
Oui, alors on est plus nombreux parce qu'on a pas mal de lignes semi-automatiques, hein, donc on est une petite centaine, comparé à une petite soixantaine sur Strasbourg, et avec des marchés très divers, hein, sur la Pologne qui vont...
Et comment est la vie là-bas en Pologne? Tu as habité combien de temps en Pologne?
Alors la vie, elle a énormément changé, hein. Nous on a encore peut-être...
C'est un pays assez pauvre quand tu es arrivé là-bas, non?
Au début c'était pauvre, voire très pauvre, voire des gens qui travaillaient encore dans les champs avec des chevaux que j'ai vus. Et puis maintenant je pense que les tracteurs sont plus grands qu'en France. Hein,
c'est parce vrai, que, ils ont plus de moyens.
Voilà, les moyens ont été considérables. Et suffit de lire un tout petit peu la presse du boom polonais qu'il y a à ce jour, qui est complètement incroyable.
Ils ont des routes, ils ont des nouvelles villas, enfin c'est un peu... Voilà.
Tout Tout est neuf, est... donc
bah, c'est tant mieux. C'est tant mieux aussi.
Voilà, c'est sans doute le peuple dans l'ancien bloc de l'Est, comme nous on appelait ça, qui a su se développer presque le plus rapidement, qui a le plus grand boom.
Et malgré que c'est un pays pauvre, ce que tu disais à l'instant, qui s'est enrichi, le café reste quand même un produit assez luxueux, assez cher. Est-ce qu'il est aussi cher qu'en France, le café, ou il est un peu moins cher là-bas?
Alors en France, on peut parfois pas trop se plaindre, parce qu'il faut juste se rappeler qu'en France, on a une TVA, une taxe de valeur ajoutée, qui est de 5,5, alors que dans ce pays, il est à 23%.
Là-bas,
donc
c'est
ça vous crée... Voilà. Donc vous avez... le café est encore plus cher quoi, dans beaucoup d'autres pays qu'en France. Ouais.
Ah oui. Et en France, ici, le café, votre café se vend sur tout le territoire français?
Alors, on reste avant tout la grande marque régionale de l'Est de la France. Hein, et donc on est
vous êtes leader en Alsace.
On est leader en Alsace, largement. Et c'est également la signature qu'on veut garder. Hein, on veut rester très fort dans ce qu'on fait. Et à ce jour, se développer sur un marché en Bretagne, face au café peut-être breton ou selon l'autre régional, on va dire que ce n'est pas trop notre tasse de café. Quoi.
Et c'est vrai qu'on peut dire que le café a le vent en poupe. Le café se vend toujours bien, malgré qu'on disait à l'instant, la TVA, tout ça, c'est toujours un produit un peu de luxe. Quoi. C'est toujours...
Le volume est constant en France dans la consommation depuis une dizaine d'années, plus ou moins. Hein, si tu veux. Donc il n'y a pas vraiment de perte. L'évolution se fait beaucoup plus. Alors c'était fait pas mal sur les capsules, sur les machines automatique par rapport au filtre.
Vous vendez aussi des capsules aujourd'hui?
Tout le monde en vend, hein, donc forcément on en vend aussi parce qu'il y a une part de marché importante. Mais ce que je voulais te dire, c'est que par exemple quand tu bois du café filtre, tu as besoin de plus de café que quand tu fais une capsule ou du café en grains. Et donc si tu veux, forcément la consommation a du mal en termes de volume, hein, encore à augmenter, compte tenu en fait de l'évolution des mœurs de consommation.
Et le café beaucoup plus concentré dans les capsules, il a...
Alors, il n'est pas plus concentré, il y en a moins, mais comme tu as une extraction type expresso, tu arrives en fait à ressortir une petite tasse avec 5,5 ou 5,2 grammes, alors que pour faire un café filtre, tu es entre 8 et 10 grammes.
Et vous n'êtes pas trop à l'ombre de ces capsules de l'oncle Georges, là, ça se vend... Tu me disais que ça se vendait bien en France, c'est pas partout.
Alors, la France, pour la petite histoire, c'est le plus grand marché mondial au niveau des capsules.
C'est incroyable.
Georges a dû plaire, mais tu sais, en France, on est parfois un petit peu con, entre guillemets aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on aime bien acheter les imprimantes qui coûtent pas cher et après, on se fait un petit peu avoir avec les cartouches derrière. Quoi. Donc, c'est un petit peu le principe. Et dans d'autres pays, hein, typiquement comme l'Allemagne, ces gens-là avaient acheté déjà il y a 20-25 ans des machines automatiques à grains. Et puis, ils ont mis plus au niveau du coût de l'imprimante et moins au niveau du consommable.
Et tu parles à l'instant du café à grain. Est-ce que c'est encore quelque chose très à la mode, ça, le café à grain avec...
Alors, c'est au-delà de la mode. Hein, c'est vraiment... les gens prennent le pli. Hein, les gens veulent boire un expresso ou un café plus long sous différentes formes, parce que la machine à grain peut être très développée, peut te faire du lait, peut te faire plein de choses. Et c'est vraiment la tendance. La tendance aussi, grâce à des prix plus abordables hein, sur ces machines. Il y a encore quelques années, ces machines étaient chères. Elles sont devenues beaucoup plus abordables. Et donc, ce qui a permis, en fait, aux consommateurs de rentrer dans un marché où, franchement, là, pour une fois, la France, on était bien en retard par rapport aux autres pays. Ouais.
Et sinon, vous avez combien de variétés de café chez Café Sati? Vous avez...
Alors, on a 80 références. Si
c'est pas possible.
Donc, ça fait compliqué, tu vois, entre les différents appareils. Maintenant, le moulu, le grain, les capsules sur différentes machines, que ce soit type Nespresso, type Dolce Gusto. Il faut répondre à tout ça. Des cafés instantanés aussi. Hein.
Donc, vous avez déjà des robots sur les lignes de montage?
Des robots qui goûtent, tu veux dire?
et parle-moi un petit peu de ce succès de Sati. Il vient d'où, ce succès? Parce que c'est une une longue famille, vous avez 100 ans, vous avez communiqué, vous avez fait des produits nobles. Qu'est-ce qui fait le succès de Sati?
Un des succès, c'est sans doute le sérieux de la maison. Hein,
la maison Choulet.
Voilà, parce que voilà, si tu veux, dans le café, hein, y a une notion de rapport qualité-prix. On peut toujours faire des cafés très très bons, excellents, mais voilà, les prix vont aussi suivre un petit peu derrière, ou vont être même plus haut, ou alors faire des choses bonnes, qui conviennent aux consommateurs à des super prix. Et là, je pense que ce rapport global, le consommateur le constate hein, depuis quelques années. On est quand même dans une période de crise qui va sans doute jamais se finir, puisque on parle de crise maintenant depuis 10 ans. Et rester fort avec une marque et confiant par rapport à cette notion de confiance qu'on donne aux consommateurs, c'est sans doute la signature et notre réussite.
Et toi le matin, t'es plutôt café ou thé quand tu te réveilles?
À ton avis.
Je crois que t'es plutôt thé.
bah oui, évidemment.
Donc t'as besoin d'un grand bol de café.
Ouais, je crois que le grand bol un petit peu moins, mais un espresso un tout petit peu allongé, ça peut être sympa.
Parce que moi j'aime bien le vrai bol de café comme ça, ouais, un peu avec une bonne... moi j'aime bien leur exquise, je crois que c'est chez vous ça, non, si je me trompe pas.
C'est pas mal leur exquise, hein, c'est pas mal.
Mais déjà c'est très poétique je trouve. Hein. Ouais. Alors 2026, c'est vrai que c'est la grande année pour la famille Sati. Alors comment vous allez le fêter? Tu m'as dit qu'il y aura un emballage un peu particulier, vous allez moudre un café un peu différent.
Alors, on a travaillé sur pas mal d'événements, hein, et puis notre mascotte là qui va arriver. Hein,
vous avez une mascotte
qui va avoir un nom très original, parce que tu vois, elle va s'appeler Sati. Hein, donc,
c'est joli. Ouais.
C'est pas mal, on a réfléchi longtemps.
Vous avez dû réfléchir, ouais, je comprends. Ouais.
Et voilà, elle va présenter plein de choses, elle va présenter des nouveaux produits, mais aussi des actions. On veut se montrer quand même aussi exemplaire dans ce qu'on appelle un peu la RSE, donc c'est tout ce qui encadre à ce jour, non seulement l'environnement, mais toutes les relations qu'on peut avoir avec les parties tierces. Donc ça, c'est ou prenante, ça c'est quelque chose d'important. Hein. Donc on va travailler beaucoup cette communication, ces visuels de nous montrer.
D'accord. Bah écoute, Patrick, un grand merci d'être venu jusqu'à chez nous, Radio Judaïque. Je vous souhaite un très très joyeux anniversaire. Vas-y voir avec le générique de fin. Merci Thomas.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà. C'est fini. Trouve un autre rocher petit.